Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 13, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Le sommaire de cette petite revue de presse.
Petite, on doit avoir une vingtaine d'articles en tout, 7 principaux, comme d'habitude. Donc là, on va vous parler de brevets logiciels, de libre en entreprise, du Document Freedom Day, Microsoft qui a des soucis avec les utilisateurs espagnols et l'UEFI, ça fait plaisir, la prochaine génération de bidouilleurs dont on va vous parler comment les former, la technologie et Internet, et pour finir, on reparle, encore une fois, du Québec et de tout ce qui se passe là-bas avec les logiciels libres.
Google Blog, la position de Google sur les brevets et l'open source, un article de Duane Valls, donc traduit par Framalong.
Voilà, avec en chapeau un commentaire de Gibus, notre grand spécialiste universel.
Oui, qui a fait la relecture, et bon, on va garder le commentaire peut-être pour la fin. On va d'abord parler de l'article en lui-même. Donc la grande nouvelle, c'est Google, dont on sait que depuis au moins 2 ans, ils sont dans des guerres de brevets infinies avec Apple et avec d'autres.
Oui, parce qu'il y en a plein qui voient qu'ils ont de l'argent et beaucoup de pouvoir avec Android notamment.
Et donc ils se font attaquer sur ces bases. On rappelle le brevet logiciel, c'est quelque chose qui existe en Amérique du Nord et dans d'autres pays, qui est arrivé de façon larvée en Europe et qui nous menace pas mal et qui permet de verrouiller une idée.
Et en informatique, les idées, on en a pléthore, et donc dans un même logiciel, on peut vraiment en avoir des milliers. On est vraiment bloqué. Derrière, c'est pire qu'un troll, enfin, c'est quelqu'un qui vous tape sur la tête légalement et on perd à chaque coup. Et là, pour le coup, ils ont trouvé une solution, et ils s'approchent de l'OPN, dont tu peux nous parler peut-être.
L'OPN, c'est l'Open Patent Non-Assertion Pledge, donc engagement ouvert de non-application des brevets. Donc en gros, Google dit, bah, on a des brevets dans notre besace, mais on les gardera uniquement si on nous attaque sur cette base-là, donc pour faire une contre-offensive.
Alors c'est même un peu plus précis encore, ils disent, voilà, si vous faites du libre, vous avez le droit de l'utiliser, d'utiliser ces brevets pour développer, mais aussi dans le cadre de la redistribution.
Les technologies couvertes par ces brevets.
Voilà. Et donc c'est très très intéressant pour nous parce que voilà, ça nous permet de rentrer dans un cadre de passage de droit, quelque chose qu'on connaît assez bien avec le copyleft. Bon, par contre, il y a un petit souci, c'est que si vous prenez du logiciel libre et que vous le propriétarisez, on va dire, peut-être à la manière que fait Apple avec plein de logiciels libres.
Mais oui, parce qu'on rappelle que Mac OS X, c'est le noyau, c'est une base de BSD à l'origine.
Et ils en ont plein d'autres, hein, WebKit et Safari. Eh bien là, pour le coup, s'ils veulent attaquer Google et se baser un petit peu sur ces logiciels, ça peut leur créer des problèmes. Eux-mêmes ne seront pas couverts par ce pledge, a priori.
Donc le commentaire de Gibus là-dessus, il tombe sous le sens, hein, c'est que ça démontre l'absurdité du brevet et que ce système, qui rappelle des choses qui avaient été faites par Twitter, qui avait fait une sorte de charte par rapport à ses développeurs et notamment ceux qui voulaient pouvoir embaucher et qui disaient que justement ils s'engageaient à n'utiliser leurs brevets que de façon défensive et que donc du coup ils étaient une boîte cool dans laquelle on avait envie de travailler parce qu'on n'était pas dans des grosses machines qui...
Des vautours, hein,
voilà, des gros vautours et ce qui déplaît pas mal à pas mal de développeurs. Donc c'est un peu cette démarche-là et donc Gibus souligne que c'est plutôt pas intéressant mais qu'en revanche ça démontre bien l'absurdité de faire du brevet logiciel.
Alors il va même un peu plus loin, il dit voilà, Richard Stallman a fait une proposition encore plus forte qui consiste à dire que les brevets logiciels ne devraient pas s'appliquer aux développeurs et aux utilisateurs, donc ce serait encore plus souhaitable et on pourrait le faire dans la loi aujourd'hui, mais bon c'est vrai que c'est déjà pas mal du tout.
Le MagIT, Linux en entreprise, dopé par le cloud, un article de Cyril Chausson. Donc encore un article sur entreprise, cloud, tout ça. Ça revient régulièrement quand même.
Ça revient régulièrement. Ce coup-ci, c'est pas une boîte qui en parle. C'est la Linux Foundation, donc qui a pas mal de boîtes comme adhérents, il faut avouer. Et là,
c'est un gros truc, oui.
C'est un très gros truc et il cite des chiffres. En gros, on peut dire que 75% des entreprises, des grosses entreprises, parmi celles qu'ils ont été voir, utilisent déjà du libre et ils l'utilisent en grande partie pour faire du cloud, donc des infrastructures, des services, des choses qu'on utilise par Internet. Donc c'est quelque chose d'assez encourageant parce qu'à côté de ça, l'utilisation de Unix, une sorte de vieux Linux on pourrait dire, et surtout de Windows, est très délaissée dans les entreprises, les projets ne sont pas là.
Il y en a peu qui l'utilisent et dans ceux qui l'utilisent, il n'y en a pas beaucoup aussi qui envisagent de faire de nouveaux projets avec ça. Donc c'est effectivement un très grand succès. On sait que sur le poste de travail, Linux reste très minoritaire. En revanche, sur toutes les applications serveurs, c'est vraiment l'explosion. ZDNet, Document Freedom Day, pour promouvoir les formats ouverts, un article de Thierry Noisette.
Donc c'est traduit par l'April, donc il nous cite abondamment dans le texte. Donc comment toi tu peux le traduire ?
Alors moi non, mais nous, l'April, on a donc traduit ça en journée de libération des documents. Ça fait moins branché peut-être.
Non, mais par contre, on se demande, parce que ça veut dire quoi? Je dois sortir toutes mes docs et les jeter par la fenêtre?
Non, voilà. L'objet, c'est de sensibiliser sur l'importance d'avoir des formats ouverts, des documents qu'on puisse lire et dont on connaisse le fonctionnement technique, et donc pour ne pas être enfermé dans l'utilisation de ces fichiers par telle ou telle solution qui ne sera pas nécessairement pérenne dans le temps ou qui ne sera pas facilement... utilisable avec une autre solution technique.
Donc je rappelle aussi, il y a un poster qui est pas mal du tout qu'on fait à l'April et qui permet de montrer un petit peu tout ça.
Qui est cité dans l'article.
Qui est cité dans l'article, ça fait plaisir. Mais surtout, il y a des citations, alors moi j'aime bien, c'est Stephen Fry, qui est un grand comédien reconnu anglais, qui dit, voilà, il faut être capable d'utiliser du libre. Alors la citation exacte, il est temps une fois pour toutes d'en finir avec l'absurdité inutile qu'un document envoyé sur une plateforme soit incompréhensible pour l'utilisateur d'une autre.
Aujourd'hui, c'est un peu une habitude sur certaines plateformes. Or, voilà, il n'y a aucune justification technique à ça. C'est juste pour vous coincer et être sûr que vous restiez dans le giron de votre fournisseur.
Cette journée a commencé en 2008, on pourrait dire. On la retrouve tous les ans. Donc, c'est quoi la date?
La date, c'est le 27 mars, donc c'est passé.
Donc, c'est passé, mais... Préparez-vous pour l'année prochaine, il faut en parler un petit peu autour de soi, association, entreprise. Il ne faut pas oublier, les documents, c'est ce qu'on garde dans le futur, pour le futur. Il faut être capable soi-même de les relire. Donc il n'y a rien de tel que de libérer les formats et s'assurer d'utiliser des standards.
01net, Microsoft attaqué par des défenseurs espagnols des logiciels open source, un article de Pierre Fontaine.
Ça y est, c'est les Espagnols qui se réveillent et qui attaquent.
C'est sur cette question de Secure Boot qu'on a abondamment cité et qui a été fait l'objet de pas mal d'articles ces derniers mois.
Aussi appelé UEFI, ça veut rien dire, enfin c'est un peu lourd.
L'article a une partie sur vraiment cette action des Espagnols et une autre partie qui vraiment présente le point du Microsoft. Donc on les sent pas très partisans, peut-être même un petit peu partisans de Microsoft, on sait pas trop.
Moi j'avoue que j'apprécie quand même, ils attaquent auprès de la Commission européenne, si je comprends bien, ils attaquent... sur les notions de monopole. Microsoft bloque le démarrage de votre ordinateur si vous mettez un système d'exploitation qui n'a pas été signé par...
Microsoft.
Voilà, c'est beau. Donc là, effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une forme de monopole. On bloque le démarrage des autres, c'est pas très sympa.
Voilà, pour se défendre, eux disent « Ah mais non, l'UEFI, le Secure Boot, c'est pas du tout une fonction de Windows 8, c'est une fonction de l'ordinateur, donc il n'y a pas de problème. »
Oui, c'est juste que c'est eux qui le font, qui signent tous les
voilà,
systèmes d'exploitation.
Ils utilisent donc leur poids prédominant sur le marché des ordinateurs pour amener tous les constructeurs à mettre ce système en place. On en a déjà parlé, on sait que ça peut poser tas de problèmes et que le contournement n'est pas nécessairement facile. Bon, cette procédure est vraiment la bienvenue.
Donc, ce qu'on peut en espérer, c'est qu'au minimum, les fabricants permettent la désactivation du Secure Boot et que Windows, à côté, s'il voit que l'ordinateur n'a pas de Secure Boot, puisse quand même démarrer, surtout s'il a été désactivé explicitement par... le client, l'utilisateur.
Voilà. Mais encore faut-il que ce soit facile à faire et un peu standardisé de telle sorte qu'on puisse s'adapter et qu'on puisse continuer à faire des distributions faciles à installer. Opensource.com, former la prochaine génération de bidouilleurs libres, un article de Dave Neary, donc traduit par Framalang.
Et oui, ils font beaucoup de bonnes choses, diffusées sur le Framablog. Donc là, on parle de l'éducation de nos chères petites têtes blondes et comment on peut leur implanter la bidouillabilité qui est très proche du libre.
C'est une réflexion d'un hacker qui est également père de famille et qui a 3 enfants, qui se dit comment je vais faire pour leur faire découvrir tout cet univers. Donc il a toute une série de conseils, notamment des trucs pour leur permettre d'avoir la main sur la décoration ou l'organisation de leur chambre.
Et il a l'air de dire, c'est pas toujours top, hein. Moi ça me ferait peur. Hein.
Puis toute une série d'autres choses, des jeux éducatifs, des jeux de construction comme les Lego, fait de pouvoir apprendre à se servir d'un fer à souder, de bidouiller leurs jouets cassés.
Il va même jusqu'à leur filer à chacun, à partir de 7 ans, un couteau.
Oui, pour pouvoir couper des ficelles et commencer à bricoler.
A priori, des bonnes idées. Moi, j'avoue que ça me fait un peu bizarre. Et il recommande aussi de laisser traîner des outils pour faire en sorte, on tombe sur un tournevis facilement pour pouvoir démonter ses jouets, par exemple. Moi, j'avoue qu'il y a un côté bordel qui m'inquiète, mais c'est vrai que l'idée de base.
Ça, c'est
pas
parce
mal.
Que t'es un petit peu monomaniaque. Mais...
Non, il faut juste chaque chose à sa place. Et donc, c'est important qu'on la retrouve. Mais moyennant le fait de faire des ombres autour de chaque outil sur une planche à outils, je suis à fond partant pour ce genre de choses.
Internet Actu, la technologie est-elle toujours la solution ? Le biais de l'internet, centrisme. Donc c'est un article de toute façon, il y a deux articles dans la série. C'est le premier article de Hubert Guillot.
Voilà, c'est le premier qui parle un petit peu de nos sujets. C'est pour ça qu'on l'a gardé dans l'article presse.
C'est un article donc qui parle d'un livre de d'autres auteurs hein, qui prennent un point de vue assez différent de celui qu'on peut défendre habituellement sur internet et l'importance d'internet dans la société et la façon dont elle transforme.
Donc notamment un des auteurs est biélorusse et il s'appelle, je te laisse le lire.
Non. Son nom de famille, en tout cas, Morozov, son prénom...
Moi, je dirais Evgeny ou Eugénie. Il a une bonne tête, on voit ce qui est à l'écran, enfin, on voit une photo.
Et oui. Et donc, bon, le propos général est de dire qu'il y a une sorte, selon lui, d'angélisme, d'internet-centrisme autour de ça, où on voit une forme de modèle idéal venu d'Internet et que les fans d'Internet voudraient caler partout et voudraient le prendre comme exemple pour l'adapter à tous les aspects de la vie et de la société.
Donc on peut citer, il n'y a plus de hiérarchie, tout est à plat, il y a un réseau entre les personnes, on est autorisé à tout, même si on garde un historique. Donc ça fait partie de ces choses. La communication peut être instantanée, peut être rapide, peut être entre tous. Il n'y a pas de blocage institutionnel.
L'auteur rappelle que dans la société, il y a des intérêts divergents, il y a des rapports de pouvoir, des rapports de force, et que cette vision angéliste de l'Internet, finalement, c'est ce qui va mener potentiellement une nouvelle élite à prendre le pouvoir. Et donc voilà, moi, ce que je reproche un petit peu à ça, le propos est quand même très intéressant, parce que ça soulève des points de vue intéressants.
C'est complexe, hein, moi j'avoue, j'ai dû le relire pour vraiment essayer de choper l'idée.
Il s'oppose à des gourous d'Internet, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont cette vision très évangéliste en disant hop hop hop, c'est la révolution.
Oui, quasiment une vision de fin de l'histoire où il n'y a plus grand chose comme enjeu si on applique Internet et les principes d'Internet au régime.
Je dirais que sur n'importe quel idéal, on a ça. Hein, en 89, 90, quand le mur de Berlin est tombé, il y a des libéraux qui ont dit ça y est, c'est la victoire du système.
Du bien.
Du bien et du système capitaliste, et on va arriver vers une société apaisée où tout va bien se passer. Mais on voit où on en est aujourd'hui. Ce qui manque là-dedans, enfin, en tout cas, de ce qu'on en comprend, c'est une étude des cas particuliers, puisque à un moment, il parle de Wikipédia par exemple, où il dit qu'effectivement, c'est une foire d'empoigne où il y a des rapports de force, des guerres d'édition.
Oui, il descend le modèle en grande partie.
Le truc, c'est que n'importe quel contributeur à des projets libres sait que ça se passe comme ça et que l'angélisme autour du système ouvert, du système libre, c'est un peu le fait de gens qui n'ont pas les mains dedans. Et dans le logiciel libre, on a bientôt 30 ans de recul. On a une communauté et des activités qui sont formées avant Internet et qui ont été modifiées, qui ont modifié l'Internet et qui ont été modifiées par lui. Et on sait que c'est tendu, que c'est pas facile, qu'il y a des rapports de pouvoir, effectivement, que ça se frite. Qu'il y a des histoires d'argent aussi, puisqu'il y a quand même des boîtes qui font pas mal de business.
Je rajouterais, il y a une pensée qui dit que l'Internet a été créé par le libre. C'est un système à deux, mais c'est une évolution qui a été concurrente.
Voilà, donc c'est une vision qui, à mon sens, est juste sur, effectivement, des gens qui ont une vision très, très angélique du truc. Et ça m'est arrivé d'en rencontrer et de discuter assez violemment avec, parce qu'effectivement, il faut de la nuance et tout ça. Donc au moins, c'est l'intérêt de cet article-là, c'est de dire ne partons pas naïvement sur une vision un peu neuneux du machin. Quoi.
Donc intéressant, allez jeter un œil si vous voulez avoir des billes pour... envisager le futur, justement l'envisager en voyant la place d'Internet, ce qu'il apporte, mais ce qu'il ne faut pas en faire de trop.
Le devoir.com, la lente et difficile ascension du logiciel libre dans l'appareil gouvernemental, un article de Fabien Déglise. Alors cet article, il est vachement bien parce que on parle du cas québécois depuis un petit moment, et là c'est vraiment un récapitulatif. On n'est pas dans l'actualité pure et dure, ça refait un petit historique. Notamment en précisant chose qui nous avait échappé dans les articles précédents, qu'il y a eu une décision de justice il y a quelques années.
En 2010.
En 2010, qui disait que, effectivement, le gouvernement québécois devrait jouer la concurrence et penser au libre.
Oui, au niveau de ses marchés publics, des enjeux et des sommes assez conséquentes.
Et l'article rappelle que le gouvernement québécois ne l'a pas fait, a mis en place des décrets pour contourner les lois et les décisions.
Qu'il y a eu des changements de gouvernement et que les gens qui étaient opposés à ces décrets, non seulement ils les appliquent, mais ils en refont des nouveaux en favorisant du propriétaire.
Et on parlait la semaine dernière de la mise en place d'un centre de ressources et le fait que la communauté du logiciel libre en place voit ça d'un œil circonspect en pensant que c'était un peu de la poudre aux yeux et que ça servait à faire passer la pilule. Donc l'article est intéressant, ça permet vraiment de faire le point sur la situation au Québec.
Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, normalement on devrait voir Nicolas qui sera de retour la semaine prochaine, il m'a promis ça.
Oui, il a terminé avec ses mises en prod, on espère en tout cas.
Et moi donc, salut tout le monde et à la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence numérique tous les jeudis à 12h30 et 17h30.